J'adore Bernard.
Elle s'ennuie de papa.
Oui.
Ou de maman en prison.
So-so, solidarité avec les sans-papiers.
RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.
C'est toujours sympa de dire merde, hein.
Les tests, oh, ceux sont d'un autre âge. Il te dit merde, mon cartilage. Les tests.
Bonjour, comme tous les mercredis de 18h à 19h, vous êtes à l'écoute de RESF, le réseau Éducation Sans Frontières, sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM à Paris, ou http://www.rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Cette émission sera rediffusée mardi matin de 7 à 8 et très bientôt téléchargeable sur le site RESF à la rubrique radio. Et pour y aller, c'est très simple, http://resf.info/radio. Ou alors vous vous arrêtez à resf.info et vous vous baladez sur le site en profitant pour passer par la rubrique pétition et pétition individuelle et vous pouvez les signer et les signer toutes électroniquement, pas de problème. On ne gardera pas, on ne communiquera pas vos adresses, juste vos noms et c'est des choses qui peuvent être extrêmement utiles quand on va défendre la personne à la préfecture ou pour obtenir un titre de séjour. Donc c'est vraiment une très bonne chose de signer les pétitions. Et donc vous arrêtez à resf.info et vous vous baladez, la rubrique pétition vous la trouvez un petit peu plus sur la colonne de gauche tout de suite, et la rubrique radio où vous retrouverez cette émission dès qu'elle sera mise en ligne, ainsi que toutes les autres RESF, enfin la rubrique radio et la sous-rubrique émission. Et bien sûr, on aime bien aussi recevoir du courrier, une lettre, un mail. Ça permet un petit peu d'interaction avec les auditeurs et ça fait toujours plaisir de recevoir du courrier. Donc n'hésitez pas à prendre votre plume, crayon, papier, stylo ou clavier et à nous envoyer une petite bafouille, soit émission RESF, Radio Fréquence Paris Pluriel, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, ou par mail à resf.fpp@gmail.com. Je répète, resf.fpp@gmail.com. Et ce pour nous faire part de tout ce que vous pensez de cette émission, nous apporter ou nous demander des compléments d'infos, nous faire toute suggestion, enfin bref, un peu d'interaction quoi. Alors aujourd'hui, on parlera beaucoup de rétention, puisque nous sommes avec Clémence Lormier, qui était avec nous il y a 2 semaines. Bonjour Clémence.
Et bonjour.
Voilà, donc tu es intervenante au centre de rétention administratif du Ménil-Amelot.
Tout à fait, un très très bel endroit, qui a notamment une très belle cellule d'isolement. Moi, c'est de ça que je vais essayer de vous parler aujourd'hui.
Voilà, et on est aussi donc avec ton collègue Marco, Marco Zanqueta. Bonjour Marco.
Bonjour.
Et tu interviens donc aussi au centre de rétention du Ménil-Amelot.
Exactement.
Voilà, et donc avant de parler de rétention, on parlera, après avoir parlé de ça plutôt, on parlera théâtre. Théâtre avec Alain Baptiste de la compagnie La Mandarine Blanche qui vient de mettre en scène une pièce à voir absolument et qui s'appelle Aller-retour de Eudon von Horvath. Et cette pièce, elle a été écrite en 1933. Et elle pose de façon assez stupéfiante l'actualité, stupéfiante d'actualité, la question des frontières, d'expulsion, mais aussi les questions des relations hommes-femmes, père-fille, des retraites, de l'obéissance, enfin bref, c'est une pièce à voir. Et donc on écoutera un entretien avec Alain Baptiste, qui est donc le metteur en scène et qui a été enregistré dimanche dernier, le 3 décembre, au foyer du Théâtre de l'Épée de Bois à La Cartoucherie. Mais avant tout, avant de parler de tout ça, quelques petites infos de la semaine. Je disais tout à l'heure de ne pas oublier de passer par la rubrique pétition. Et il se trouve, je ne l'avais pas prévu, que les 3 pétitions individuelles mises en ligne hier, mardi 4, qui sont les 3 dernières pétitions d'ailleurs mises en ligne au moment où j'ai préparé cette émission, il y en a peut-être d'autres qui sont arrivées. Donc les 3 dernières pétitions concerne des jeunes majeurs pris en charge par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, après 16 ans. Et quand ils sont devenus majeurs, la préfecture des Hauts-de-Seine a répondu par des OQTF. Donc le premier à avoir reçu cette OQTF, hein, c'est Malik Diop, donc pris en charge par l'ASE à 16 ans. Et au Sénégal, Malik a été élevé par son oncle, a été à l'école jusqu'à l'âge de 8 ans. Après, il a été obligé de travailler. À 15 ans et demi, il est parti dans l'espoir d'une vie meilleure. Il est arrivé en France. Il a été pris en charge donc, par l'aide sociale à l'enfance. Il avait un petit peu plus de 16 ans. Il est actuellement en CAP cuisine et il a demandé son admission au séjour à la préfecture des Hauts-de-Seine quand il est devenu majeur, en s'appuyant sur la loi qui permet la délivrance d'un titre de séjour pour les jeunes pris en charge par l'ASE entre 16 et 18 ans, et il a reçu une OQTF. Et puis c'est aussi, donc ça c'est la première pétition, après il y a donc un appel pour Saliou Sow, qui est également pris en charge par l'ASE, qui a été pris en charge par l'ASE après 16 ans, qui a obtenu un CAP et qui a choisi de poursuivre sa formation professionnelle en apprentissage, et ce avec l'aide de son établissement scolaire. Il a trouvé un employeur, a demandé une admission au séjour à la préfecture des Hauts-de-Seine quand il est devenu majeur, et au QTF. Et puis c'est Jonas Gnadia qui a quitté donc la Côte d'Ivoire en juillet 2016 avec un recruteur de football. Il est arrivé en France. L'homme l'a abandonné sans ses affaires ni son passeport dans un café. Il a été pris en charge lui aussi par l'ASE. Il est entré en formation professionnelle en septembre et son CFA, donc CFA ça n'est pas rien à voir avec le France CFA, mais c'est le centre de formation et d'apprentissage, donc où il est apprenti, atteste de son sérieux et de sa grande implication, témoigne qu'il a su adopter le comportement nécessaire à sa réussite scolaire et qu'il s'est parfaitement adapté aux règles de vie dans l'établissement. Eh bien, lui aussi a obtenu une OQTF. Voilà. Et donc, bien sûr, hein, si on peut signer ces pétitions, ces trois pétitions et toutes les autres, ça fait pas de mal. Clémence, je te voyais réagir.
Oui, non, mais c'est agaçant, quoi, parce que entre 16 et 18 ans, la préfecture, en effet, elle n'est pas tenue de délivrer un titre de séjour si le jeune a été pris en charge entre 16 et 18 ans. Ce n'est pas une obligation pour elle. Elle utilise son pouvoir d'appréciation. C'est comme ça qu'on appelle ça juridiquement. La préfecture a un pouvoir discrétionnaire d'appréciation de la situation de la personne. Et en fait, concrètement, si on regarde les conditions d'accueil des jeunes, le temps très court de la prise en charge pour les jeunes qui arrivent entre 16 et 18 ans, c'est un vrai marathon pour trouver une formation, c'est un vrai marathon pour apprendre le français souvent et pour faire tout ce qu'on peut pour s'en sortir et pour s'autonomiser autour des 18 ans. Et rien que par le trajet que les jeunes ont fait, et bien souvent rien que par les efforts qu'ils ont déployés pendant le temps très très court de la prise en charge, on pourrait considérer qu'ils méritent un titre de séjour, mais malheureusement, ça n'est pas le cas.
Oui, ce n'est pas ce que pense la préfecture, les préfectures en général, parce que c'est malheureusement très très fréquent, et dans toutes les préfectures de France, métropolitaine et d'outre-mer, mais les préfectures refusent et refusent de plus en plus.
Ouais. Et ce qui est insensé, c'est qu'en fait, on fabrique du sans-papier avec ces jeunes à qui on refuse un titre de séjour à la majorité. Ça veut dire qu'ils sont pris en charge sur un temps très court, refus de titre de séjour à 18 ans. Qu'est-ce qu'il leur reste après sans titre de séjour? Pas de possibilité de travail. Souvent, ces jeunes, ils sont arrivés depuis peu de temps, donc ils ont peu d'aide et de soutien et de réseau communautaire. Qu'est-ce qu'on fait en fait? On fabrique des sans-papiers qui vont perdre leur hébergement le jour de leurs 18 ans très souvent parce que l'ASE va les mettre à la rue. Donc on fabrique des personnes qui seront sans papiers, sans droit à la rue, alors que le titre de séjour leur permet de continuer à s'insérer et facilite quand même grandement leur rentrée en France. Quoi.
Voilà. Et puis donc un petit mot quand même de l'international. Donc dans un article du Monde daté d'hier, mardi 4 décembre, on a appris que le Danemark veut parquer sur une île les migrants délinquants en attente d'expulsion. Alors, je cite, l'îlot danois de Lindholm hébergera à partir de 2021 les étrangers déboutés, délinquants, soupçonnés ou accusés d'un délit ou d'un crime ou condamnés à l'expulsion, et ceux dont la demande d'asile a été rejetée. Donc, c'est très, très beau en matière d'amalgame, quoi. Mais au moins ça a le mérite d'être parfaitement clair. Alors, un petit mot quand même, parce que je ne vais pas lire l'article du Monde en entier, ça on pourra le retrouver. Quand même un petit mot sur cet îlot. Hein, cet îlot qui donc abritait l'Institut vétérinaire de recherche sur les virus. Et il devra d'abord être vidé de ses chercheurs et décontaminé.
Oh mon Dieu, on passe du virus au sans-papier et au débouté du droit d'asile.
Voilà, mais bon, ça c'est un projet, c'est une technique, une stratégie qui a commencé, je crois, par être développée il y a quelques années par la Grande-Bretagne, hein, qui consiste à rendre l'État, le pays, le plus hostile possible. Et donc, on reste dans l'hostilité maximum, en restant pour l'instant dans le cadre des traités internationaux, des conventions internationales qui ont pu être signées par l'État, tout en préparant donc une sortie, une dénonciation de ces conventions internationales. Et puis en Méditerranée, donc d'après Info Migrants, 15 migrants ont été retrouvés morts dans un canot qui dérivait au large de la Libye. Alors selon les premiers témoignages, les victimes seraient mortes de faim et de soif. 10 autres personnes ont été secourues, ont été prises en charge près du port de Misrata à l'est de Tripoli. Et des rescapés ont été confiés au Croissant Rouge et aux hôpitaux de la région. Donc ils sont retour Libye et les choses se passent en général très mal pour eux. On va voir si on a des nouvelles. Et des nouvelles, donc on avait parlé la semaine dernière de 12 personnes qui avaient été secourues donc il y a 10 jours par le Nuestra Madre Loreto, hein, qui est un navire espagnol, et donc qui cherchait un endroit pour débarquer ces personnes. Ils craignaient une mutinerie s'ils retournaient vers la Libye, parce que les gens qu'ils avaient sauvés ne voulaient tout sauf retourner en Libye. Donc ils ont finalement été accueillis à Malte. Donc l'un des rescapés gravement malade d'ailleurs a été évacué par hélicoptère vendredi, et les migrants qui ont été recueillis à Malte seront, une fois qu'ils auront été soignés, si j'ai bien compris ce poste sur le site Info Migrants, ils seront ensuite transférés en Espagne. Et puis je crois que vous vouliez nous faire une petite annonce à propos de la sortie de la Crasata.
Oui, en effet, on vient de sortir notre nouvelle crasette. La crasette, c'est le journal de l'équipe de la CIMAD qui intervient dans les centres de rétention du Ménil-Amelot.
Ouais.
Donc, de manière régulière, on essaie de sortir ces journaux pour faire un peu un point d'étape, en fait, sur ce qui se passe dans les centres de rétention du Ménil-Amelot, dénoncer la violence institutionnelle, en fait, qu'il peut exister dans ces lieux d'enfermement, et du coup dénoncer la pratique de l'État français, en fait, la violence en fait que l'État français peut faire subir à des personnes étrangères qui sont dépourvues de titre de séjour. Et aussi l'illégalité en fait de ces pratiques, notamment en fait, les lecteurs pourront les lire, l'édito, ça consiste en fait sur un examen de ce qui s'est passé dans les mois passés, notamment concernant les demandeurs d'asile. Et du coup, ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure sur un processus de criminalisation des demandeurs d'asile qui s'espace dans différents pays de l'Union européenne, mais aussi ça se passe en France, en fait, avec un enfermement qui a été beaucoup de fois illégal, en fait, de la personne qui venait en France seulement pour demander une protection internationale. Donc on explique un peu les mécanismes des illégalités préfectorales par rapport à la question des demandeurs d'asile en procédure Dublin. Et aussi on revient sur la pratique de l'isolement, du placement de la personne dans ce qui est appelé une chambre de mise à l'écart. Clémence tout à l'heure va faire un petit topo là-dessus. Et voilà, donc j'espère que vous pourrez les lire.
Voilà, donc on la trouve donc sur le site lacimad.org. Et pour y aller, donc il suffit d'aller je crois que ça s'appelle en région, hein, l'onglet qui est dans le bandeau en haut, et il suffit d'aller sur Île-de-France Champagne-Ardenne, je crois.
Tout à fait.
C'est Île-de-France Champagne-Ardenne, après rubrique publication, et vous tombez sur la crasette. Et on s'excuse platement auprès des lecteurs de la crasette, parce qu'elle a mis un an à sortir, cette crasette-là. Elle a été un peu attendue, mais c'était pour une très bonne raison, c'est que nous avons une nouvelle maquette, pimpée, très jolie, avec à base de dessins d'oiseaux qui passent les frontières beaucoup plus facilement que les hommes. Ouais. Donc cette crasette a mis longtemps à sortir, mais on est assez fiers de la nouvelle maquette qu'on a.
Voilà. Et peut-être donc avant d'entrer dans le vif de notre sujet, hein, qui sera donc la rétention et le mini lamelon, on peut faire une première toute petite et très courte pause musicale. Et comme on a parlé de la mer, j'avais eu une idée d'écouter Dès que le vent soufflera, mais c'est une version qui est que je préfère à la version originale, hein, Dès que le vent soufflera, et c'est HK et les déserteurs.